Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. En une formule très ramassée, nous trouvons là une des grandes vérités de notre vie spirituelle. Premièrement, notre sainteté ne peut s'entendre que sur le modèle de la sainteté de Dieu. Lui seul est saint. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, est ainsi reconnu par les démons. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Deuxièmement, en prenant chair de notre chair, le Fils de Dieu nous rend capables de devenir nous-mêmes des saints. Dieu s'est approché au plus près de nous pour que nous puissions lui devenir semblables. Voici le caractère inouï de notre foi. Troisièmement, la sainteté est un appel, une vocation, comme l'exprime l'impératif « Soyez saints ». C'est Dieu qui prend l'initiative de nous faire devenir tels et qui nous donne les moyens de croître en sainteté tout au long de notre vie. Ceci dit, qu'est-ce que cela signifie concrètement être saint? Vous le savez sans doute, il y a maintenant 2 ans, le pape François a écrit une très belle méditation pour nous exhorter à entendre l'appel que Dieu nous adresse à chacun. Gaudete et exultate, la joie et l'allégresse, n'est pas un traité sur la sainteté, des mots mêmes du pape, mais un écho à l'appel de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps. La sainteté n'est pas de l'ordre de la perfection intellectuelle ou morale. Il ne s'agit pas d'acquérir la sainteté à la force du poignet, en accumulant les connaissances sur Dieu et sur soi, ou bien en essayant de cocher toutes les cases du bon comportement catholique. Le risque, alors, apparaît de nous trouver sages à nos propres yeux. Comme nous y invite le livre des Proverbes, « Ne te complais pas dans ta sagesse, crains le Seigneur, écarte-toi du mal. » Saint Paul va même plus loin lorsqu'il nous met en garde contre toute tentation de mondanité spirituelle. « Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, dit-il dans le passage de la première lettre aux Corinthiens, entendu tout à l'heure. La sainteté tient plutôt de notre capacité à accueillir la grâce de Dieu. Cela paraît tout simple, et pourtant. Ce n'est pas un hasard si le pape François associe notre sainteté aux béatitudes, d'où l'exhortation tire son titre d'ailleurs, Gaudete et exultate, hein, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, hein, vous le savez, fait partie donc, de ce passage dit des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, n'ayons pas peur de nos limites, ni même de notre péché, puisque Dieu nous offre la possibilité de restituer en nous la ressemblance perdue et de nous conformer toujours plus à sa volonté. Vivre selon les béatitudes, c'est devenir plus humain, donc plus divin. La page d'évangile de ce jour, située dans le prolongement des lectures des semaines précédentes, donc des béatitudes, nous explique quelle est la logique de la sainteté de Dieu. La sainteté nous appelle au commandement de l'amour, à la perfection de l'amour, à la folie de l'amour. La sainteté nous appelle au commandement de l'amour. Quand saint Matthieu synthétise l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, il ne le présente pas comme particulièrement révolutionnaire. Rappelons-nous les paroles de Jésus. « Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Tout est déjà dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et l'amour de Dieu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et l'amour du prochain, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La nouveauté apportée par Jésus est de mettre l'amour de Dieu et l'amour du prochain sur le même plan. Voilà le grand le premier commandement et le second lui est semblable, affirme Jésus au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. Saint Paul comprend très bien ce qui mène naturellement d'un amour à l'autre lorsqu'il écrit aux Galates « Toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu induit d'aimer les autres. » La sainteté nous appelle à la perfection de l'amour. Il ne faut pas comprendre la perfection de l'amour comme une affaire de performance, de pureté ou de séparation d'avec le monde. Sinon, nous prenons le risque de devenir des cathares. Vous savez, les cathares sont les tenants de cette hérésie du XIIIe siècle. Aujourd'hui, on en fait des slogans publicitaires pour le tourisme départemental de l'Aude. Et pourtant, voilà, si les gens savaient ce qu'il y a derrière ce nom. Mais nous risquons de devenir des cathares, enfermés dans leur ascèse, leur hantise d'intégrité et leur mépris du monde. Les cathares étaient sans doute de braves gens, mais qui avaient perdu, à mon avis, l'essentiel de l'Évangile. Quand Jésus parle d'être parfait, comme notre Père céleste est parfait, il ouvre un chemin. L'adjectif grec « téléos » que nous avons traduit par « parfait » indique en effet un achèvement, un accomplissement à comprendre comme le terme de notre route vers la sainteté. En attendant, tâchons de vivre l'Évangile le plus humblement et le plus droitement possible avec la grâce de Dieu que nous procurent notamment les sacrements de l'initiation chrétienne. Et certains parmi nous se préparent à les recevoir et nous nous en réjouissons. La logique de la sainteté nous appelle à la folie de l'amour. Dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul laisse entendre que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et de fait, les propos de Jésus entendus ce matin nous laissent quelque peu perplexes. Comment comprendre l'injonction de Jésus à ne pas riposter aux méchants tout en tendant la joue ? Comment aimer son ennemi ? Et nous le savons bien, mais chacun d'entre nous a, un jour ou l'autre, été confronté à la méchanceté des autres. Alors, pas la méchanceté qui tue, certes, mais une certaine forme de méchanceté qui nous atteint, qui atteint le cœur de notre dignité. Et puis, avouons-le aussi, nous avons été confrontés parfois à notre propre méchanceté. En écoutant les paroles du Christ, nous avons l'impression d'une démission inacceptable face à l'injustice. Mais Jésus ne nous encourage pas à devenir veules. Ce que Jésus demande, lui-même en fera l'expérience dans sa passion. Quand il est souffleté par un garde, vous savez, lors de la discussion avec le grand prêtre, il ne tend pas l'autre joue, mais réclame vérité et justice. Dans le contexte précis du sermon sur la montagne, tendre l'autre joue signifie refuser d'entrer dans la logique de la contre-violence, d'utiliser les mêmes armes que l'adversaire. Et ce refus, finalement, désarçonne ce dernier. Jésus se laisse dépouiller de sa tunique et sa nudité devient un cri d'innocence face à ceux qui s'efforcent de l'humilier. Les milliers de pas du chemin de croix au milieu des gardes romains et de la foule manifestent le courage et la dignité de l'homme éprouvé. Quant à l'amour des ennemis, Jésus l'exprime à travers le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La logique de la sainteté emprunte le chemin des béatitudes et le chemin de croix. C'est ce que le pape, à la fin de son exhortation apostolique, définit comme la logique du don et de la croix. Puissions-nous, pour faire la volonté de Dieu et parvenir à la pleine communion avec lui, proclamer par toute notre vie l'évangile du Christ crucifié. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Il est chemin de sainteté.